Instituart Podcast. Vous écoutez la version podcast d'Entendre et S'entendre avec le groupe Terre Noire, invité par l'Instituart Art, Recherche, Territoire, Savoir à l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne, du vendredi 16 janvier 2026. Un échange co-animé par Anne Damonguillot, ethnomusicologue, et Camille Rollins, chercheur en philosophie et en sciences de l'éducation. À partir d'une sélection d'extraits de chansons de Terre Noire, une discussion s'est engagée avec le groupe autour du rôle de l'artiste dans la société, de la manière de faire de la musique aujourd'hui et des différentes formes d'attachement. Il s'agira de penser le travail des voix et des sons au sein de considérations politiques, sociétales et esthétiques.
Alors, bonsoir à toutes et à tous, je la refais. Merci beaucoup d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir. Merci à Terre Noire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici à l'Université Jean Monnet et merci à tous les collègues de l'Université Jean Monnet. Ils se reconnaîtront pour l'organisation de cette rencontre. Je vais commencer par présenter Terre Noire, même si ça me paraît presque un peu surfait ici parce que je pense que tout le monde les connaît, mais quand même, je me prête à l'exercice en les présentant en quelques dates de manière très factuelle. Donc c'est un duo qui s'est monté en 2016. Le premier album s'intitule « Les forces contraires ». Il est paru en 2020 et il a été salué par la critique et vous a valu la victoire de la révélation masculine aux victoires de la musique en 2022. 2023, c'est la date du festival à Terre Noire que vous avez organisé, donc le quartier stéphanois dont vous êtes originaire. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais enfin, je redis tout ça quand même. Votre second album « Protégé » est paru en 2025 sous votre label « Black Paradiso », comme pour le premier. Et vous êtes actuellement en tournée à travers la France. Vous écrivez des chansons en français. Votre style se caractérise par un mélange de chansons françaises, de pop électronique, de spoken word peut-être. On pourra revenir sur la question des catégories si elle est intéressante, avec une attention particulière au texte, à la voix. Et en plus des machines, vous vous entourez désormais sur scène de musiciens, un claviériste, un batteur et un guitariste. Et puis vous arrivez de chanter avec orchestre, avec chœur, pas plus tard que hier soir, dans le cadre du festival Polisson à Montbrison, avec la maîtrise de la Loire. Camille Rollins et moi-même allons nous présenter. Donc Camille, je t'en prie.
Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus nombreux et nombreuses pour cette rencontre. Et merci beaucoup au groupe Terre Noire de l'avoir permise. Merci Anne de m'avoir convié à co-animer avec toi cette rencontre. Donc très rapidement, hein, Camille Rollins. Donc moi, je suis chercheur en philosophie, en sciences de l'éducation, enseignant pour les futurs enseignants et enseignantes sur un autre site universitaire. Pour ceux qui connaissent bien Saint-Étienne, celui du 90 rue Richelandière, ancienne École normale d'institutrice, désormais INSPE, et IUFM également. Une collègue avait fait une demande amusante à la mairie de la ville dans laquelle elle travaille d'avoir un plateau numérique pour donner le nom de cette chose-là plutôt que des planos fixes parce que ça change tout le temps. Et donc, parmi mes objets d'études, outre les enjeux plutôt politiques, sociaux, moraux, contemporains, je travaille aussi sur ceux que Michel Tournier appelait les contrebandiers de la philosophie, c'est-à-dire ceux qui font passer plein de réflexions philosophiques à travers leurs chansons, leurs livres, leurs films, leurs BD. Donc je suis très content d'être là dans ce cadre-là.
Donc Anne Damonguillot, je suis musicologue, ethnomusicologue très exactement. Donc mon champ, c'est plutôt les musiques traditionnelles, les musiques du monde. Je ne suis pas spécialiste de la chanson, mais en tout cas, la relation de l'homme à la musique, pour le dire ainsi, m'intéresse particulièrement. Alors cette rencontre est organisée par l'Institut Art, Art pour Art, Recherche, Territoire, Savoir. Et l'Institut Art, parmi d'autres activités, invite régulièrement des artistes, alors des artistes originaires de Saint-Étienne, mais pas uniquement, on accepte aussi les autres. Donc on a accueilli Orlan et La Épître l'année dernière, mais aussi le poète Jean-Pierre Siméon par exemple, ou encore tout récemment l'autrice-illustratrice Audrey Poussier. Ce qu'on veut ce soir et généralement, c'est un dialogue à la fois exigeant et ouvert pour une université accueillante qui est le lieu de tous et toutes, il faut le rappeler. Et c'est une mission de service public du partage des savoirs qui nous tient à cœur. Alors notre rencontre s'intitule « Entendre et s'entendre ». Elle va se dérouler de la manière suivante. On a sélectionné 4 chansons qu'on va écouter ensemble. Et puis, on va partir à chaque fois d'un élément sonore ou d'un processus compositionnel sur lequel on va ensuite discuter et on va arriver à des réflexions esthétiques, sociétales, politiques. Et on va convoquer avec nous d'autres pensées, des pensées de sociologues de la musique, de sociologues, d'anthropologues ou encore des philosophes. D'ailleurs, entendre et s'entendre, c'est une expression que nous avons volé à l'anthropologue Denis Laborde, qui dit, bien évidemment, c'est un jeu sur le mot, hein, que s'entendre ne signifie pas seulement entendre un son, mais il est question de l'entente sociale, de s'accorder, de s'entendre, mais c'est aussi se comprendre, trouver un terrain commun, et finalement, l'écoute est toujours une expérience relationnelle et sociale. La première chanson, c'est « Vivre sobrement ». Donc, je vous propose de l'écouter ensemble et j'attire votre attention, nous attirons votre attention sur le procédé de la boucle. Donc vous allez entendre une petite ritournelle mélodique qui apparaît dès le début et qui revient incessamment tout le long du morceau.
L'amour a changé mes idées. J'ai reconsidéré le sens de tout ce que je fais. J'adhère aux idées de mon amour. Mon art, je le ferai encore, mais par amour.
J'ai renoncé pour le bien de nos corps, pour le bien de nos villes, de nos vies. Vivre sobrement, sans ambition, au sommet d'un monde à moi. Libérer des rêves d'enfant, vivre sobrement. Retoucher mes dessins,
tête penchée sur le monde comme un réverbère éteint. Corde à sauter pour que mon cœur tienne. Un dernier album pour mon quartier. Dis Siri,
c'est quoi mon destin? J'ai renoncé pour le bien de nos corps, pour le bien de nos villes, de nos vies. Vivre sobrement, sans ambition, au sommet d'un monde à moi. Libérer des rêves d'enfant, vivre sobrement.
Terre noire n'est pas révolutionnaire, c'est des chansons populaires qui rendent fier le quartier. J'ai pas perdu, je n'ai pas perdu mon frère, on s'est même amélioré. Appris le métier.
J'ai renoncé pour le bien de nos corps, pour le bien de nos villes, de nos vies. Vivre sobrement, sans ambition, au sommet d'un monde à moi. Libérer des rêves d'enfants, vivre sobrement. J'ai renoncé pour le bien de nos corps, pour le bien de nos villes, de nos vies. Vivre sobrement, sans ambition, au sommet d'un monde à moi. Libérer des rêves d'enfant, vivre sobrement.
Tu fais le playback, tu sais.
Ah oui, on fera ça pour les autres morceaux, ce sera drôle. Comme ça, vous aurez un petit moment de concert, comme ça. Des clips.
Donc la boucle, bah, c'est cet intervalle qui grandit au fur et à mesure qu'on entend dès le début. Alors c'est peut-être un peu métaphorique, mais notre idée, c'était la boucle comme un ostinato, quelque chose qui revient, et que c'est une impression de sobriété, une forme d'économie de moyens. Et puis, y a un grand travail de nappe, d'habillage et un grand travail sonore de transformation au fur et à mesure de cette boucle-là. Mais en fait, cette économie de la boucle, elle nous amène vers la sobriété, qui est le titre du titre. Et en fait, c'est, donc, vous chantez ça dans cette chanson, mais c'est aussi une manière d'être et de faire votre musique et de faire votre vie de musicien. Et là, je vous passe tout de suite la parole, mais je reprends un mot que vous employez souvent dans les interviews, par exemple, qui est « on voudrait, on a voulu territorialiser la tournée ». Et cette histoire de territorialiser, évidemment, ça nous fait penser immédiatement à Deleuze et Guattari dans Mille plateaux. Et je sais que c'est une référence qui vous est chère. On vous écoute.
Waouh, purée. Boum. Non, bonsoir, merci d'être là, ça fait plaisir. On a été étudiants ici pas longtemps en musicologie, et moi ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu, donc voilà. Petit préambule, mais trop content. Beau bâtiment, on est bien, la lumière est belle. Concernant cette chanson, mais de manière plus globale, ce qu'a été l'album Protégé, en tout cas ce qu'il est, il y a cette image, cette idée de ce symbole de la carte, de la cartographie qui a traversé vraiment tout le disque, tout le temps. C'est pour moi la carte, c'est enfin, en tout cas ce jeu d'échelle entre nos corps, d'individus qui produisons des sons, qui vivons des choses à des échelles, à l'échelle de nos corps, et le monde qui nous environne. Et donc l'idée de territoire, des territoires qu'on traverse, des territoires qu'on tente de chanter, et le fait qu'une chanson soit elle-même un territoire, voilà. Je pense que c'est des choses qui sont un peu obsessionnelles. Deleuze, le Mille plateaux, moi je capte quasiment rien, mais il y a des choses qui sont extraordinaires, dont cette idée, moi, qui m'a beaucoup plu. Elle est mystérieuse encore pour moi, mais elle m'a beaucoup plu. C'est le fait de dire qu'un territoire, il n'est pas possessif, contrairement à ce qu'on pense, que serait un pays, une région, une ville, un mur qui clôt quelque chose, mais au préalable, il serait expressif. Un territoire serait donc une expression avant d'être une possession. Et que donc ça fait du geste artistique le territoire premier. Avant l'art, ce serait aussi les oiseaux, par exemple, qui seraient en chantant. Donc Deleuze et Guattari parlent de ritournelle. Ils parleraient de la ritournelle des oiseaux qui territorialiserait un espace. Voilà. Et voilà donc cette histoire de... Enfin, je pense qu'on va en reparler, parce que je sais pas trop ce que je veux dire. Je cherche encore ce qu'on essaie de dire quand on parle de territoire, mais c'est aussi des espaces temporels. Par exemple, moi, quand j'écoute cette chanson, je l'ai écrite à un moment donné, je l'ai partagée à Théo, on l'a remodifiée ensemble. En fait, ils sont mis bout à bout plusieurs habitats, plusieurs espaces. J'ai créé un bout dans ma chambre. Ensuite, au studio, ça a été un autre lieu dans lequel la musique a été faite. Puis ensuite, la voix, j'y ai repensé, parce qu'on retourne dans cet autre studio bientôt. C'est là, la voix, elle est enregistrée dans un troisième espace. Donc en fait, la production de chansons, celle-ci en l'occurrence, elle est la photographie, l'empreinte, l'espèce de mise en forme de plusieurs territoires qui sont émotionnels, mais aussi physiques, de géographiques en fait. Voilà. Ça répond à rien. Hein.
Non, et je pense qu'en effet, il y a aussi une sorte de contrat qu'on passe textuellement dans ce morceau et qui va donner une sorte de forme à la chanson. C'est-à-dire que Vivre sobrement, en effet, on va pas en faire un morceau symphonique, on va faire économie de moyens. Et il y a quelque chose à l'intérieur du piano, pourtant, qui maintenant nous paraît simple, mais qui est, je pense, un des objets techniques et design les plus compliqués à avoir été conçus, parce qu'il a fallu, je crois, 80-100 ans pour arriver du prototype de ce que devaient être les pianos, je crois au 18e siècle, piano forte, jusqu'à un piano touche noire et blanche en ivoire qu'on connaît avec une caisse en résonance en bois. Je m'égare, mais en tout cas, le piano, nous, dans les studios et maintenant en tant que compositeur moderne, c'est la chose la plus simple qui nous vient. On a l'harmonie, on peut avoir le rythme, on peut avoir... Et je pense qu'il y a aussi une place très très importante dans cet album qu'on a sorti l'an dernier, et aussi notamment dans ce morceau. Raphaël m'a proposé la première ébauche de ce morceau avec ce piano qui n'a plus jamais bougé. C'était le pacte, c'était le noyau de ce morceau. Ce piano, cette ritournelle, sera l'ossature et elle n'a jamais été remise en question. Et je pense en effet que tout a tourné autour de cette ritournelle, tout a tourné autour de réussir à faire dire quelque chose de ce minimalisme, réussir à lui trouver un esthétisme. Là, il y a beaucoup de choses, il y a d'autres territoires aussi qui sont racontés dans ce morceau. On entend parfois entre les refrains des violons qui viennent ça et là. Moi, c'est des samples de musique irlandaise que j'ai trouvé et qui s'appliquaient juste comme il fallait avec cette tourne de piano en fait qu'on avait trouvé. J'ai pas du tout composé ça, je l'ai trouvé. je l'ai archivé, je l'ai samplé et je l'ai mise dans, dans ce morceau. Il y a aussi cette rythmique qui vient quasiment l'impression de toucher le bois, de la caisse de résonance d'une guitare qui est tapée à plusieurs endroits. Donc il y a beaucoup de territoires qui viennent, qui rentrent les uns avec les autres, mais tous viennent être au service de l'idée première minimaliste qui était le piano. Et du coup, c'est une ritournelle, en effet, qui est montée en épingle et qui est voilà, au centre de tout. Et je pense, en effet, que c'est pas inconscient que que l'idée de vivre sobrement, puisque au début, ce morceau n'avait pas exactement le même texte. Et tout est devenu voilà, un cantique pour vivre sobrement. Et je pense qu'en effet, c'est la musique, vraiment l'instrumentation qui a produit le sens de cette chanson. Voilà, si je peux expliquer en tout cas au mieux que je peux cette chanson et dans le scope que vous nous avez permis d'explorer.
L'autre idée à travers cette chanson et aussi à travers cet ancrage donc dans le son et dans sa répétition, comme tu viens de le dire, c'était ce concept d'atterrir qui a été travaillé par Bruno Latour, qui est cette idée, donc anthropologue et sociologue lui aussi, qui était que finalement on s'est mis à vivre dans des abstractions, et qu'on n'était plus des terrestres et qu'il faut qu'on le redevienne. Et ça me fait penser à un projet que vous avez à la ferme de la Martinière, qui est dans le Rouennais, donc dans notre département. Et donc, où vous, finalement, vous partagez des réflexions avec le monde paysan, qui sont des réflexions, finalement, qui sont similaires, c'est-à-dire comment habiter la terre, y réfléchir, faire quelque chose de nous ici, et que, finalement, la réflexion de l'artiste, elle n'est pas loin de la réflexion du monde paysan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce travail qui est aussi de longue haleine, qui existe et qui se développe?
C'est autre chose. Ouais, c'est un travail sur lequel, enfin, en tout cas, c'est un projet que je mène avec d'autres. Latour, il parle de... Enfin, je ne sais pas si Latour parle de ça, mais dans cette histoire d'atterrissage, c'est intéressant, en tout cas, de... Enfin, moi, quand j'entends ça, je parle au moyen de subsistance. Qu'est-ce qui nous fait subsister? Je pense que c'est des questions qu'il s'est posé. En tout cas, je pense à même un moment donné, il a posé ces questions sous forme de questionnaire. Qu'est-ce que sont les choses qui vous font bouffer, en gros, au sens propre et au sens littéral? Qu'est-ce qui vous fait travailler? Qu'est-ce qui vous met de la pitance dans votre assiette, etc. Et la question de l'agriculture, la question de la société paysanne, elle structure presque l'idée même de culture et de sédentarité. Et il y a plein de choses. C'est un peu compliqué de déplier le projet Sion très rapidement comme ça, mais en gros, c'est une famille d'amis, c'est une ferme amie, c'est des gens que j'aime beaucoup. C'est des gens qui aiment chanter, la musique, elle est centrale. Il y a évidemment dans les sociétés paysannes une grande place, en tout cas dans cette ferme, mais beaucoup une grande place à l'oralité, à la musique, au chant. Il y a Ambiarl, c'est un village dans le Rouennais, il y a un musicien... incroyable, je suis en train d'oublier son nom là maintenant, mais ça va me revenir, qui est un super accordéoniste qui fait de la musique trad incroyable, et c'est vrai que ce lien entre, pour moi, ce lien entre l'agriculture, la culture, le territoire, ce qui nous fait manger, ce qui nous nourrit, c'est assez central dans ce projet. Ouais.
En fait, on parlait tout à l'heure de votre tournée, vous vouliez territorialiser. Finalement, c'était de réinventer aussi la manière d'être musicien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, on parlait de la maîtrise hier soir. En fait, vous essayez de passer plus de temps dans chaque endroit pour être davantage ancré.
Oui, plus ou moins. Le but de cette tournée, c'était de casser une certaine manière de standardisation, de faire tourner. Nous, artistes, la plupart du temps, quand on part en tournée, quand c'est sur une année ou deux, parfois, c'est souvent un acte très, très dupliqué où les jours se ressemblent énormément. Le plaisir de faire de la musique reste le même. Il n'y a pas de souci à ces endroits-là. Mais on prend beaucoup la route. On est beaucoup sur des aires d'autoroute. On est beaucoup dans des salles de spectacle entre 17 et 23 heures. On a un concert au milieu et on rencontre jamais personne, sauf les personnes qui nous font la joie de venir nous voir, signer, acheter, échanger quelques mots des disques à la fin d'un concert, mais ça reste quand même un rapport biaisé. C'est-à-dire que moi, je suis très heureux qu'on discute ensemble les uns avec les autres, mais j'aimerais pas que vous me vendiez quelque chose et que ça soit la seule manière de voir vous communiquer avec vous, quoi. Et ben pareil, là, c'est super parce que arrivé un petit peu en amont, donc on vient en train le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et on va... après avoir anticipé, je ne sais pas, 6 mois en avance et rencontré des personnes qui sont, voilà, des espaces culturels, des centres sociaux, des écoles, des chorales amateurs, des chorales semi-pro, plein d'espaces. Ben, on prend rendez-vous, on va dire, et on se dit, ben, dans 6 mois, on va faire ça, de 14 à 17, de 17 à 19. Et du coup, ça nous permet déjà de vivre des choses merveilleuses parce que c'est très, 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 très divers et c'est de la rencontre d'êtres humains tout le temps. Nous, ça nous permet de penser aussi en dehors de nos réalités d'artistes, ce qui est très, très sain. Ça nous permet aussi de sentir qu'on a énormément de formes différentes, puisque aussi c'est souvent ça la réalité de nos industries, c'est que nous, les musiciens, petit à petit, on devient les personnes qui font des musiques et qui font de la promotion sur Instagram. Et finalement, on peut se donner beaucoup plus de formes différentes par le contact, par des choses qui ne sont en tout cas pas extrêmement... On ne gagne pas énormément de thunes en faisant ça, hein, c'est pas le but. Par contre, il y a énormément de richesses à l'endroit de la transformation de soi, à l'endroit de ce qu'on peut donner, et aussi à l'endroit de mettre de l'empouvoirment sur la figure de l'artiste. C'est-à-dire qu'un artiste qui fait des choses avec du public, qui vient donner des... Bon, en fait, on se rend compte qu'il est quand même vecteur d'énormément de rencontres et de plein d'initiatives, puisqu'il a une place spéciale d'associations, de choses qui n'auraient pas pu faire ça si nous n'étions pas là. Donc ça nous permet, nous, de profiter d'un certain statut que nous avons pour continuer à faire résonner, en fait, des espaces. Donc, c'est super beau, on a fait des ateliers d'écriture, les gens se mettent à pleurer d'émotion, nous aussi, on fait des chorales avec des CM1, CM2, 6e, 5e qui chantent des chansons qu'on n'a jamais vues, on voit des profs dans des collèges qui font des choses extraordinaires. Bref, ça nous fait faire un tour de France et du coup du territoire très large, très beau, et ça donne énormément d'espoir, en fait. Et on a besoin d'espoir, et ça donne de l'espoir aux gens, parce qu'en fait, on se connecte les uns aux autres. Pas beaucoup d'autres choses à dire, c'est très très beau de faire ça. J'ai beaucoup aimé le... Oh bah, hop.
C'est une ritournelle de Proust.
Pas un questionnaire de Proust.
Merci beaucoup. Alors, moi, dans la répartition des rôles, hein, ils ont... Anne a beaucoup tendance à lancer des choses, puis le groupe réagit. Et moi, j'essaie, comme je peux, de rebondir après et justement de prendre la balle au bon. Moi, une des choses qui m'a beaucoup intéressé à la fois dans la chanson qu'on a entendue et dans la réponse, enfin dans le rebond que vous faites. Donc, je vous livre ça et puis l'idée justement, c'est que vous rebondissiez à votre tour sur ça. C'est, je vais partir de deux choses qui est dans la chanson. D'abord son titre. Une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que pendant longtemps, la notion de sobriété, on l'a beaucoup utilisée, dirons-nous, pour décrire de l'hygiène de vie, est-ce qu'on abuse ou pas de certaines substances. Et éventuellement dans un discours moral, c'est-à-dire ça va être une vertu éventuellement. Et la manière dont vous l'utilisez et dont c'est de plus en plus employé dans le discours public, c'est comme un concept politique ou comme un concept de critique sociale. C'est-à-dire comme essayer de décrire comment on devrait vivre ou comment on devrait arrêter de vivre. Et donc j'arrive sur ma deuxième porte d'entrée qui est, je trouve, dans les paroles de la chanson, un contrepoint que vous faites et qui, à ma connaissance, n'est pas si courant, quand vous dites « libérer de nos rêves d'enfant ». En général, les rêves d'enfants, c'est plutôt connoté positivement. C'est pas les chaînes de l'aliénation qu'il faut savoir rompre. Et pourtant, vous, il y a l'idée de... Il y a eu un avant. Il y a des choses dans lesquelles on a marché, peut-être par habitude, peut-être parce que l'industrie de la musique fonctionne comme ça, peut-être pour plein de raisons. À un moment, on s'est posé et on s'est dit comment on sort de ça. Comment on se désaliène de ça, comment on sort de ce qui ne nous va pas là-dedans. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fois dans la chanson et à la fois dans votre réponse, en fait, moi, enfin, quand on est un peu familier avec ces idées-là, on arrive à refaire un parcours de manière différente, artistique, expressive, d'un discours critique de la modernité. En fait, nous dire la modernité, elle nous a dit accélérer, déterritorialisez-vous, posséder, arriver à l'abondance, et comme ça vous serez bien. Le rêve d'enfant de la modernité, c'est celui-là. C'est parce qu'on va sortir de la pauvreté, de la rareté, de la difficulté. Et on l'a fait, de plein de points de vue. Ça a eu un certain nombre d'apports, mais ça a posé aussi un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes-là, on a essayé de les traiter dans la critique politique à un niveau très macro, en disant on va changer le monde, on va faire la révolution, on va faire quoi que ce soit. Bon, puis ça a eu des succès mitigés. Et du coup, il y a eu un retour critique, y compris sur ça, et qui est résumé de façon très belle par la formule, la traduction d'empowerment, l'idée d'empowerment dont tu parlais tout à l'heure, qui est l'idée qu'on peut, c'est John Holloway qui disait ça, changer le monde sans prendre le pouvoir. Et comment est-ce qu'on fait pour changer le monde sans prendre le pouvoir? En faisant des petits projets locaux, en discutant avec des gens, en faisant chanter des gens de la maîtrise de la Loire avec soi. Et en faisant ça, on n'est pas un leader révolutionnaire un peu éthéré. On n'est pas non plus quelqu'un qui simplement continue à vivre dans la boucle de ses rêves d'enfant sans jamais les avoir interrogés et sans jamais être arrivé à la maturité. On est dans une forme de maturité, comme on pourrait parler de la maturité d'un fruit, voilà, qui est sur son territoire, qui a poussé et puis qui donne voilà, ce qu'il a de mieux à donner. Et c'est simplement, je voulais partager ça avec vous, qu'en allant, en faisant la boucle, en allant de ce qu'a dit Yann à la chanson, à ce que vous avez dit, à ce que ça a évoqué chez moi, voilà, ça, je voulais partager ces réflexions-là avec vous, donc je sais pas ce que vous en pensez.
Waouh, c'est la chose la plus intelligente qu'on ait dit sur notre musique, merci. Ça me fait penser à un truc, pareil, Deleuze, je crois que je comprends vite fait, pas vraiment bien, mais je trouve qu'il permet de penser quelque chose qui me semble vraiment nouveau. C'est la pensée rhizomatique, ou c'est le rhizome. Et il oppose, je crois, le rhizome à l'arbre. En tout cas, il dit qu'à l'arborescence, qu'on pense les choses de manière verticale, que nos récits sont structurés de manière verticale, que nos imaginaires sont verticaux. Et dans nos têtes d'enfants, nos graines, les graines dans les têtes des enfants que nous sommes et que nous avons, on a ces graines verticales de s'agrandir soi, de faire fructifier, de fabriquer des tours immenses. Oui, on va finir par parler de ce type-là qui fait des tours immenses. Et puis, et ça semble très bien. Et puis c'est beau, c'est beau l'architecture comme ça. C'est beau un arbre. Enfin, je veux dire, il dit pas que les arbres c'est pourri et tout, mais en tout cas, il dit quand même cette chose. Il dit mais peut-être que il y a des choses qui n'ont pas besoin de ce tronc très solide et de ces petites branches, etc. Mais tout d'un coup, il pense les lignes de fuite, il appelle ça des lignes d'air. Il dit qu'il y a aussi une capacité vitale extraordinaire à... Vous voyez, le rhizome, c'est ce qu'il y a sur les... C'est les trucs des pommes de terre, quoi. Les pommes de terre, tout d'un coup, elles partent, c'est des petites racines, c'est des choses qui parlent, qui s'étoilent, qui se constellent les unes aux autres, et avec une importance similaire aux énergies qui vont partir à travers ces rhizomes. C'est une idée, je crois, qui n'aime pas forcément penser un centre puissant et des alentours fragiles, mais une puissance, enfin, en tout cas, c'est pas le bon mot, puissance, mais une énergie similaire à tous les endroits des tuyaux, vous voyez, des veines, quoi. Et ça, je crois que c'est très puissant, et il y a quelque chose dans l'idée de... sobriété, je sais pas si c'était le bon mot, mais en tout cas, on a écrit ça, on n'est pas en train de réfléchir beaucoup quand on écrit des chansons, faut pas exagérer. Et en les commentant après, on se dit putain, c'est quand même un peu bébête à certains endroits, mais bon. Mais bon, ça veut dire 2-3 trucs. Mais je pense qu'il y a cette idée, en tout cas, je parle des chansons, mais aussi dans ce qu'on essaye de mettre en place, de ne plus mettre au centre ce qui semble être la chose la plus importante. Le pouvoir, l'argent, l'ambition, s'élever dans la musique, etc. Pour faire ce métier depuis longtemps, et je pense au cœur de l'industrie, de la musique, des gens qui la tiennent, mais aussi malheureusement parfois de ceux qui chantent et qui fabriquent des chansons. C'est pas vraiment de notre faute, c'est juste que c'est quand même le système, il est quand même pensé à ça, et je trouve que s'en extraire, nous on passe pas tellement par la pensée philosophique, etc., mais par, ou en tout cas on a besoin de le ressentir, et c'est vrai qu'on a ces fragments d'instants qui sont, on a reparlé avec ça, de ça avec Théo tout à l'heure. On a fait un moment de chorale avec une classe de cham, vous savez, c'est les classes musique, dans un collège. C'était à côté de Pont-Audemer, c'est en Normandie, pas si loin de la mer, pas si loin de Honfleur.
Du Havre, ouais.
Du Havre, pardon. Et on a, y a ces gamins, il y a un prof extraordinaire, prof de cham, qui apprend à ses enfants à chanter. Et à travers le chant, il leur apprend le collectif, être avec les autres, etc. Des rhizomes, quoi. Et on a eu une émotion extraordinaire. Ces gamins, ils ont fait pleurer, ils sont venus à chanter devant nous. Et il y a quelque chose, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose dans ce qui était dans la tête de ce professeur, les graines qu'il a mis dans la tête de ces gamins, le travail du collectif, le fait que c'était un chœur, une chorale, l'importance de chaque individu, chacune et chacun était à leur place, libérés physiquement, dans une énergie extraordinaire, une capacité d'écoute, de joie. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses de l'humanité qui fonctionnaient très, très bien. Ça fera pas grand bruit, cette histoire, on est d'accord. Je vous en parle là parce que ça m'a touché. Mais même en l'écrivant, c'est pas, ça ferait rien. En la filmant, on ne percevrait rien. Il y a quelque chose d'autre, quoi. Et je pense que c'est là, vers ces endroits-là, vers ces zones d'intensité-là, que notre regard et notre énergie doivent se tendre actuellement. Voilà. Ce qui ne veut pas dire perdre les verticalités, toute idée de milieu, mais commencer à faire partir des rhizomes de nos pratiques, quoi. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je suis en train de dire. Hein.
Il y a eu un deuxième, en tout cas. Ça fait plaisir.
On passe à Hotline Gorgon. Ça vous va ?
Allons-y. Allez, lip-sync, c'est parti.
Hotline Gorgon, donc là, cette fois, on attire votre attention sur la transformation vocale, puisque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est bien Théo qui chante.
Hotline Gorgon, jour du Seigneur, monté dans mon, je prends mon Uber, je déroule la ville, voyage d'affaires, instant terrible, en intérieur, famille de fous, je perds des points de vie, à chaque coup de mon.
Alors, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, il y a un sociologue qui s'appelle Simon Fries, qui, dans une sociologie des musiques populaires, dit de manière un peu radicale qu'on s'est trompé en analysant les chansons comme des textes et que finalement l'analyse littéraire de la chanson passe à côté de son objet et qu'une chanson c'est un script à performer. Ce qui l'intéresse c'est le phrasé, les accents, les soupirs, la voix. Et notamment, il ajoute que ça l'intéresse quand une voix masculine use d'une intimité associée plutôt au féminin, ou en tout cas des inflexions associées au féminin, et qu'elle devient intéressante, notamment parce qu'elle problématise les normes de la masculinité. Bon, je reprends les idées de Simon Fries. Et donc, dans cette transformation vocale, voilà, il y a une forme d'androgynie que j'associe aussi, Théo, comme je l'ai dit, à la manière dont ta gestuelle a aussi évolué sur scène, à l'utilisation des bras, quelque chose qui fait pop ballerine flamenco, comme on l'a dit. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà le procédé que tu as utilisé?
Non. Je peux
tout voilà, explique-nous tout.
J'aurais adoré, en plus, sur un plancher, ça aurait été super pour du flamenco. Merci pour ces questions. C'est vrai que je me pose la question de ce pourquoi j'utilise ça, mais je vais déjà commencer par très rapidement expliquer comment techniquement c'est fait. Donc, c'est un effet de bande magnétique qui est reproduit par ordinateur, mais il faut imaginer que c'est un effet analogique, donc fait avec quelque chose de physique. Imaginons que j'enregistre à cette vitesse. La ta 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 touti touti la 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 la. Enfin, là, je vous fais juste l'instrumentation, il ne faut pas imaginer que je chante. Et là, je vais ralentir la bande. Poum, 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 tou, 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 tou. Et là, je vais chanter là. Jour du Seigneur. Hop, petit à petit, je rebobine la bande et je la fais aller plus vite. Je la fais revenir à la tonalité et rapidité originale que je vais chanter au tout début. Et du coup, ma voix, elle a été un petit peu retendue vers le haut, mais à la tonalité souhaitée. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle le varispeed. C'est des choses que faisaient de nombreux musiciens depuis très longtemps. Prince le faisait déjà dans les années 80. Nombreux artistes. Je pense tout de suite à Prince parce que c'est celui que j'aime beaucoup comme artiste. J'aime beaucoup Prince et plein d'autres artistes l'ont fait. Et moi, je l'ai utilisé parce que je pense que j'aime beaucoup entendre les morceaux avec plein de tonalités différentes, les ralentir. Je pense que ça, c'est des jeux d'enfants. Écoutez, on avait une platine vinyle avec plus 33%, moins 33%. Donc, je pense que ça, c'était déjà des choses qui se jouaient dans le corps, dans l'idée du jeu, le fait de se dire que la musique est une matière mouvante qui peut avoir des temporalités différentes. Je pense que j'ai jamais été extrêmement à l'aise avec ma voix chantée, enfin je l'ai jamais trouvée extrêmement belle, et je me disais, ah tiens, à ces endroits-là, je trouve la transformation. Et je trouve quelque chose qui, moi aussi, mais de manière plus globale, très, très cher, c'est les idées de transformation et les idées de métamorphose des choses. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de... Je fais rarement tomber ma voix vers le bas, vers le plus grave, donc en effet, il y a quand même aussi quelque chose d'inconscient qui vient... En tout cas, à rendre plus aigu, parce que féminiser plus aigu, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est tout à fait lié, mais en tout cas, quelque chose qui, si on veut, voilà, d'ordre général, parler de féminisation, je le comprends, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose de tendresse d'aller vers la femme et culpabilité d'être un homme, je pense, de manière inconsciente, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue aussi à ces endroits-là. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui vient chercher une forme de chemin de désir, de chemin d'être celui qu'on n'est pas, de transformer la musique. Et je pense que Prince l'a toujours fait avec une sorte de pointe de chanson ultra sexy, un sex symbole, quelque chose du désir. Je suis pas Prince, c'est pas l'idée, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans la musique qui est pour moi associé à l'idée de désir, beaucoup de sexualité dans mes morceaux, dans mes paroles, dans ce qui est. Mais je pense que c'est surtout l'idée de retrouver en fait ce qu'a été voilà, la musique, le désir, ce qu'on ne peut pas vraiment avoir, ce qui peut être transformé, ce qui nous permet de nous transformer. Et pour parler de la danse à ces endroits-là et des habits, Je ne sais plus pourquoi on avait parlé du débardeur, oui, qu'on a dit, voilà, avant qu'on préparait l'intervention, on me disait, mais depuis que tu as mis le débardeur en tournée, Théo, tu danses plus de la même manière. Oui, je pense qu'il y a un besoin de la vie pour devenir un grand danseur flamenco. Non, mais voilà. Mais en tout cas, c'est des espaces, en tout cas, oui, voilà, changer de voix, changer d'espace, pour moi, c'est des endroits où je peux entendre quelqu'un d'autre. Et entendre quelqu'un d'autre dans le processus de travailler sa musique, ça permet de prendre un pas de côté, parce que c'est pas tout à fait soi avec qui on travaille. Donc c'est aussi la création d'une altérité. Et voilà, pour une autre raison, mais c'est aussi ces choses de l'altérité, je travaille avec un logiciel où j'écris des partitions et ils me font le son des violons, des cordes que je fais. Et c'est tellement bien fait que j'ai l'impression de travailler avec un vrai orchestre. Et du coup, je me délaisse souvent de la question de « est-ce que ce que j'écris, c'est bien ?» Mais plutôt, je me pose la question de « est-ce que mes cordes, là, en face de moi, je vais leur faire quelque chose de bien ?» Ils vont être heureux de jouer cette musique. Et du coup, ça crée quand même toujours une manière un petit peu différente d'engager l'acte de création, parce que souvent, on est quand même perclus de doute. Hein. On est perclus de doute, on se demande bien si ce qu'on fait, c'est bien. Et parfois, finalement, avant de faire les 30 dernières minutes de la journée où c'est bon, bah, on a arrêté le projet en se disant « je crois que c'est pas bien ». Donc, en tout cas, trouver des manières de se transformer à l'intérieur de soi, ça permet, je trouve, de retrouver des espèces de poches d'espace, de créativité et de sortir un petit peu de soi-même. Et je crois que ça fait du bien. Voilà, je suis un peu loin dans la question. C'était pas exactement ça, mais...
Si, c'était merci. Parfaitement ça. Et puis aussi le reste. Donc, et cette transformation vocale par la machine, ça nous permet d'aller vers Gilbert Simondon. Et là, je regarde au premier rang parce que donc Marc Canella, alias Fiscara, est parmi nous et sera en résidence à l'université, à l'Institut Art, en février-mars, autour de la figure de Gilbert Simondon, qui, parmi ses qualités, avait la principale qualité d'être né à Saint-Étienne. Lui aussi.
C'est la plus belle qualité.
C'est ça. Ouais. Merci. Tu l'as dit à ma place. Et donc voilà, en fait, donc c'est un prétexte un peu pour parler de Simondon, mais cette idée, c'est qu'on le disait tout à l'heure, c'est que la machine n'est pas notre ennemi, elle peut être notre allié à partir du moment où on la comprend, où on la démonte, on a un autre rapport qui devient relationnel avec elle. Mais peut-être que les philosophes en parlent mieux, donc je passe le micro au philosophe qui est à ma gauche.
Ça met une légère pression. Je vais me planquer derrière le fait d'être né à Saint-Étienne aussi, comme ça je suis absous pour toutes les bêtises que je pourrais dire après.
Merci.
Rapidement, ce que j'ai pareil, beaucoup apprécié dans le dialogue qui s'est noué, puis à la fois dans l'écoute et dans ce qui a été dit là, c'est il me semble que à la fois votre œuvre dans ce domaine-là, et votre démarche, enfin, la manière dont vous l'incarnez, ça nous donne des pistes, enfin au moins des choses à réfléchir sur deux défis contemporains, en fait, qu'on est d'une certaine manière toutes et tous, et surtout tous pour l'un des deux, obligés de relever, en fait, des questions qu'on les intellectualise ou pas, qu'on les formalise ou pas, on est obligé de se les poser. Je trouve toute la partie de la réponse sur le rapport à la masculinité, est-ce qu'on fait baisser sa voix pour réaffirmer une masculinité par une voix bien grave, ou est-ce qu'on accepte de la monter pour tendre vers du féminin? Moi, enfin, je trouve rapidement, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui auront pensé à ça aussi, qui est cette question de la déconstruction de la masculinité toxique ou d'une certaine forme de virilisme. Si on le déconstruit, ça veut bien dire que par principe, on l'a construit en nous, ou on l'a construit pour nous, ou un peu les deux avant, et ce qui fait qu'on a besoin de faire ce travail de déconstruction. Et je trouve que dans votre cas, dans ce que vous dites, c'est hyperbolisé, parce qu'en fait, dans la modernité un peu tardive, une figure par laquelle on a sacrément reconstruit la masculinité dominante, encore plus que le chevalier ou le légionnaire romain à l'ancienne, c'est la rockstar. C'est la personne qui peut faire 350 jours de tournée sans dormir, en prenant beaucoup de drogue, en encaissant, en ayant toujours une espèce de projection de virilité, de donjuanisme, de quoi que ce soit, qui fait très attention à ce qui est rien qui dépasse et qui puisse le laisser penser qu'il est un peu féminisé, slash faible, slash ce qu'on veut, dans une vision justement, dans une vision viriliste. Et entre guillemets, ça, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, mais en la prenant en tant que personne qui s'expose, qui expose sa voix, qui expose son corps, qui monte sur scène, qui a une reconnaissance publique, on prend le problème à un point où il est un peu hyperbolisé quand même. Donc du coup, voir la manière dont vous vous débattez avec ça, c'est inspirant. nécessairement, parce que vous le prenez pas à un endroit où c'est facile. Et je me posais je me faisais une réflexion analogue, et c'est la référence pour certains connaissent très bien Simondon, d'autres peut-être un peu moins. Enfin, il y a un coup d'entrée à la lecture quand même. Enfin, c'est voilà. Mais une des grandes questions de Simondon, c'est c'est un peu comment. De toute façon, on est environné d'objets techniques et qu'on voisine avec eux. Pour le dire très simplement, l'idée que la guerre homme-machine est peu probable parce qu'il y aurait trop de fraternisation avec l'ennemi, en fait. De ce point de vue-là, c'est une manière un peu simple de le dire. Et je trouve que cette idée de comment on va à l'intérieur de la machine, on en fait une amie, on s'habitue à... pour construire sa subjectivité, en fait, pour construire ce qu'on est en tant que sujet et pas pour se faire, encore une fois, complètement aliéné. Nous, on vit tout ça avec un micro-ondes, c'est déjà un truc complexe pour moi, donc je ne vais pas avoir de grandes prétentions d'explication technique. Mais on a un peu cette expérience-là. Et vous, non seulement vous soulevez le capot, mais vous rentrez loin dans le moteur quand même, dans ce que vous arrivez à faire. Et du coup, c'est pas du tout la même chose d'avoir à se poser cette question-là, par exemple, à la fin de la journée, là, quand on est dans les 30 minutes où c'est bien. Dans ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien parce que c'est moi et qu'est-ce qui est bien parce que le logiciel est bien conçu ? C'est une sacrée question et que vous avez à vous poser, encore une fois, de manière hyperbolique par rapport à nous. Donc dans les deux cas, je trouve que ce que vous donnez, c'est inspirant en le prenant à un niveau élevé pour des questions auxquelles on se cogne un peu toutes et toutes, à des niveaux moins développés, moins profonds. Enfin, voilà, c'est un peu ce que ça m'inspirait.
Non, mais ça me fait penser à... en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis qu'on est gamin, le fait de créer des choses, c'est être en lien étroit avec des machines. Et... sans cesse, tout le temps. Quand j'étais petit, je voulais faire du cinéma, enfin, je voulais faire des films, on avait juste un mini caméscope. Et donc, raconter une histoire, c'est tout de suite passer par un petit caméscope de rien du tout avec des cassettes et un petit banc de montage de iMovie d'un ordi pourri, etc. On faisait des films de comme on pouvait, mais en tout cas, le rapport à l'immense plaisir de faire quelque chose de beau, enfin, je sais pas, un geste de beauté, un geste artistique, une histoire, un truc comme ça. C'est passé immédiatement par la technique, immédiatement par la machine. Et donc, moi, en tout cas, je suis d'accord avec cette idée de fraternisation avec l'ennemi, parce qu'on l'a vécu dans nos chairs. Et c'est-à-dire qu'il y a énormément de chansons qu'on chante aujourd'hui en piano-voix, en guitare-voix. Et Théo, très justement, disait tout à l'heure qu'une guitare, un piano, c'est déjà de la machinerie. Alors, c'est pas de la machinerie d'IA, qui aujourd'hui est d'ailleurs moralement crainte et considérée comme l'ennemi, mais je pense que... il y a aussi beaucoup à penser à l'endroit de l'IA, et moi je l'utilise quand même pas mal, et je pense que c'est un outil, au-delà de sa dimension polluante, qui est un vrai problème pour la subsistance, mais qui en tout cas, l'endroit de la créativité est un outil absolument extraordinaire. Si la relation est bien travaillée, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant, et pas du tout dépossédant, bien que ça puisse être un outil qui dépossède. Au même titre qu'une voiture peut nous envoyer dans le décor et nous emmener voir la personne qu'on aime. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas des choses dont on a pensé, il faudrait qu'on en parle avec Marc. C'est des chansons qu'on chante piano-voix, guitare-voix. Souvent, elles sont nées parce que la machine nous a permis d'avoir un premier accès à une émotion. C'est dans cet ordre-là, très souvent. Plutôt que ce côté de dire je suis parti avec ma guitare, nylon, boyau de cheval, vous voyez, enfin, toute cette espèce d'opposition qu'on a intérieurement de ce qui est naturel et organique, et puis la machine qui est... Enfin, tout ce qu'on a souvent dit à l'endroit du sample, que le sample, c'est pas de la musique, puisque la musique électronique, elle est moins de la musique qu'un concertiste ou qu'un virtuose du saxophone, bref. Enfin, je pense qu'il y a ça en sous-jacent d'une panique morale à l'endroit de la machine qui nous poursuit depuis que le monde est monde, je pense. Ça devait être certainement le cas à l'endroit de la première pelle et de la première pioche. Peut-être pas à ce point, mais certainement à l'endroit de la charrue, quoi.
Du livre, en tout cas.
Et le livre aussi, enfin bref. Ou en tout cas, l'imprimerie, sans aucun doute, bref. Mais voilà, en tout cas, on vit avec les machines. Moi, j'écris uniquement sur ordinateur. J'ai des logiciels que j'aime parce qu'ils ont une... Mais j'ai un rapport affectif, sensoriel, C'est un instrument comme un autre, quoi. Et voilà.
Et puis on fait partie des générations qui ont grandi avec la machine, biberonné avec la machine. Donc pour nous, c'est des rapports entrelacés de naissance. Moi, l'imagination que j'ai pu créer dans les jeux vidéo petit, 3-4 ans, parce qu'aussi j'écoutais de la musique en même temps que je joue aux jeux vidéo. Enfin, la musique, c'est aussi le jeu et c'est aussi la machine et c'est toujours un peu. C'est des positions très 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 entremêlées. Donc pour nous on fait partie de ce monde de machines parce que né à l'intérieur, quoi, sans aucun doute.
Est-ce que la machine nous abrutit plus que ça? Elle peut, je pense, il y a des utilisations de la machine abrutissantes. Mais en revanche, moi, quand Théo dit ça, je pense que c'est plutôt une démultiplication des territoires possibles traversés en termes de sensibilité. Et moi, par exemple, je sais que les jeux de rôle sur ordinateur que j'ai aimés ont façonné une partie de ma manière de penser les projets, par exemple. Enfin, ça va être long d'en parler, mais je pense qu'une partie de la mythologie à l'intérieur des jeux vidéo ont fabriqué une partie de mon rapport au territoire et à la cartographie, par exemple, et à la géographie, et au fait de faire des tournées, sans aucun doute. Je pense qu'il y a une part des jeux de rôle qui s'est logée là-dessus. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas être traitées sous le prisme moral. Quand on est à l'endroit de la machine ou de ce qui serait juste un écran, machin, c'est un peu bébête, je pense, de penser comme ça. Mais plutôt, est-ce qu'il y a des zones d'intensité qui nous font grandir en joie, en humanité et en sensibilité, quoi. Je sais pas.
Alors, une machine, c'est la voiture. Quelle belle transition. Le fou dans la voiture. Il y a un conducteur. Il est fou, mais il y a un conducteur.
Ça peut être une Tesla.
Dans la voiture et dans la.
Oui, d'accord. Donc deux choses à écouter plus particulièrement, c'est les sons de manifestation au tout début, sur lesquels on attire votre attention, et puis le rythme.
Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, et il tient le volant, il tourne à droite dur. Maman, et un fou dans la voiture, et il tient le volant, il tourne à droite dur. C'est pas de la maladresse, ça se voit que c'est pas de la maladresse. C'est le mal, est-ce que c'est le mal? C'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est le mal, mais c'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est pas de la maladresse. Dubaï n'est pas le paradis. Les stars ne sont pas sympathiques. Pas besoin de tout le temps parader. L'enfer n'est pas le paradis. Où est le paradis? Casino gagne toujours à la fin. Les puissants veulent garder tout ce qu'ils ont. On sait manger par des images. T'as pas besoin de la doudoune Prada. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, il tient le volant, il tourne à droite dur. Maman, et un fou dans la voiture, il tient le volant, il tourne à droite dur. Maman, c'est pas de la maladresse. Ça se voit que c'est pas de la maladresse. Est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est le mal ça? Ou c'est le mal ça? Est-ce que c'est le mal? Ou c'est le mal? Est-ce que c'est le mal ça? Ou c'est le mal ça? Est-ce que c'est le mal?
Première chose, on parlait donc des sons du son de manifestation qui est au tout début. Ça nous amène à la question de la conscience politique. Donc, vous l'avez dit dans vos interviews, que c'est quelque chose qui est venu progressivement, une forme de conscientisation. Le fou dans la voiture, visiblement, il roule comme un fou. Donc, il y a cette accélération qui est un peu aliénante et qui va à l'encontre de ce qu'on a dit précédemment, de décélérer, ralentir. Donc là, ça, c'est Camille qui le sait. Il y a d'autres groupes qui ont utilisé, et donc je te laisse la parole, ce type de procédé.
Oui, moi, c'est vraiment une question que j'avais eue en écoutant ce tout début de chanson. Le fait d'inclure des sons de manifestation dans une chanson, j'ai plusieurs autres occurrences qui me sont venues en tête, et du coup, je me suis demandé, voilà, à chaque fois, quelle est l'intention ? Pourquoi vous l'avez fait ? Il y a deux exemples que je connais un petit peu, où je sais pourquoi les gens l'ont fait. La chanson La Manifestation, donc, du groupe québécois Les Cowboys Fringants, là, c'est biographique. C'est parce qu'ils ont écrit la chanson en revenant d'une manif sur l'altermondialisme, où ils avaient vu plein de trucs qui les avaient marqués. Voilà, dans l'histoire, ils racontent ça. Un autre exemple, la chanson On lâche rien de HK et les Saltimbanques, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce que c'est dans la scène du milieu, la scène de manif dans La Vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Eux, l'idée, c'était vraiment de faire une chanson de manif. Eux, ils avaient été fascinés par les sonos de manif et on marche derrière la chanson dans le champ. Ils ont fait une chanson pour ça, avec des sons de manif dedans, pour marquer l'affiliation. Donc moi, ma question, c'est en fait l'intention, le moment où vous décidez de faire ça, est-ce que c'est parce que biographiquement, c'est l'inspiration au départ ? Est-ce que c'est parce que vous avez une idée de destination de la chanson, quand elle peut être utilisée ? Est-ce que c'est pour en orienter l'interprétation sur des trucs qui sinon pourraient être implicites ? Voilà, c'est ma première question.
C'est au moment où on écrit cette chanson, au moment où Zemmour prend une place très importante dans l'espace public, et donc ouvre cette fenêtre d'Overton vers la droite et l'extrême droite, en laissant une place magnifique pour tout plein de gens, pour jusqu'à maintenant, pour venir s'y loger. Et en fait, il y avait beaucoup de manifestations à ce moment-là. Il y avait beaucoup de répression, de violences policières, d'images qui tournaient, etc. Donc on s'était même réunis avec les copains et les copines. On s'était réunis pour on voulait écrire des chansons. En fait, c'était un moment où on écrivait des chansons en réaction immédiate à ce qu'on vivait. Donc c'est marrant, comme les Cowboys Fringants ou HK, etc. C'est tout de suite, on vivait ça et on voulait faire une chanson assez immédiatement. Et en fait, on a fait des chansons assez rapidement. Il y en a eu deux ou trois. Il y a eu L'impunité des puissants. Il y a eu celle-ci, qui était vraiment dans le même temps. Et un moment un peu similaire, il y avait On ne nous veut pas du bien aussi, qui était censée être une chanson collective, bref. Et elles sont particulières à écrire, ces chansons, parce qu'elles semblent pas venir du même endroit, pas venir de la même nécessité. Mais parce que c'est marrant, elles adviennent assez vite. Enfin, c'est une réaction, mais pas réactionnaire, mais justement dans cette idée de réaction. Et on a tout de suite imaginé, je pense que c'est ce qui va suivre après pour la dimension rythmique et percussive et dans le sens du titre, c'est on a imaginé que cette chanson existerait dans une sono de manif, justement. Ça faisait partie un peu du désir esthétique. Qu'est-ce qui peut mettre le corps en mouvement, en fait, quand on parle de ça ? Comment, justement, en fait, il y a quelque chose qui est complexe quand quelque chose nous déplaît dans le monde, d'en faire une chanson. C'est pas la même chose d'en faire un pamphlet ou un texte difficile. Parce que je pense qu'une chanson, il faut quand même que ce soit quelque chose qu'on ait envie on a envie d'habiter une chanson, on a envie de vivre avec une chanson. Donc quelque chose qui est juste un texte déprimé ou angoissé sur quelque chose, ça suffit pas pour faire une chanson. Il faut qu'il y ait quelque chose qui contrebalance. En tout cas, dans ce titre-là, l'idée de la danse et l'idée du rythme et de la marche était nécessaire pour contrebalancer l'énergie, en fait, qui est l'énergie de la lutte, contrebalancer ce qui est dit de cette interrogation de est-ce que c'est le mal et ce fou dans la voiture qui tourne à droite, parce qu'on parle évidemment de politique et de bord politique. Voilà, donc c'est un peu, je pense que le point de départ, c'est un peu ça.
Et ce qui est drôle, en fait, c'est que ce morceau, du coup, il a été fait vers 2019-2020, et ensuite on l'a fini de travailler en 2024, du coup, les 6 mois avant la fin de la création de notre album. Et pendant ces 3 années de berceau de ce morceau avant qu'il soit né, il n'existait pas du tout ce sample de... Je suis allé sur freesamplelibrary.mp3.com, qui sont des trucs libres de droit, et j'ai tapé manifestation en anglais, donc je sais plus riot ou je sais plus, enfin non c'est pas riot, c'est pas une émeute, mais manifestation, et en fait je suis tombé sur un, en fait c'est des manifestations antifascistes, soit suédoises, soit norvégiennes, soit scandinave, danoise, je sais plus exactement. Et du coup, c'est drôle parce qu'on a invoqué un autre territoire complètement étrange, c'est que dans un morceau, un album de chansons françaises, il y a un chant scandinave, danois ou suédois. Ou... Et il nous plaisait aussi, je pense, parce qu'il y avait une certaine ambivalence, c'est-à-dire qu'il représente une sorte d'altérité comme un personnage qui est très important dans ce morceau. Et il est là et on sait pas s'il nous veut du bien, ce sample, et je sais que je suis heureux de savoir, et voilà, c'est comme une espèce de easter egg dans les jeux vidéo, donc une espèce de truc caché à l'intérieur, de savoir qu'en fait, on n'est pas en train de dire des choses horribles comme ça, c'est vraiment un chant antifasciste en fait qui est à l'intérieur de ça. Et du coup, ça permet aussi de garder cette rythmicité, puisque aussi, si on veut parler vraiment musicalement, la voix de Raphaël, elle a des patterns rythmiques assez simples, assez basiques, qui reviennent quasiment toujours les mêmes, et la voix, elle permet de créer en fait les rebonds comme une espèce de duo entre voix et manifestant. Et du coup, ça permet en fait de tisser le morceau et de le dynamiser à chaque fois. Voilà, pour parachever la réponse de Raphaël.
Merci beaucoup. Et enfin, je me permets juste de rebondir sur une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, mais c'est ta réponse là qui me fait penser à ça. Donc la manifestation, c'est pas riot, l'émeute, c'est protest. En fait, si on traduit littéralement, protest song, ça veut pas dire seulement chant de manif. C'est quand même un genre musical absolument fondamental dans l'histoire de la musique américaine en particulier. Et je trouve ça très 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 intéressant. Juste partage. Alors là, c'est vraiment pour le coup partage de vécu sur le côté la pattern qui revient de manière extrêmement régulière. Moi, je sais que cette chanson, c'est perso, hein, mais quand j'ai vraiment besoin de rentrer dans un morceau, souvent, je fais de la route la nuit en l'écoutant en boucle, prudemment la route. Pas comme un fou, et celle-là, ça m'a vraiment aidé en fait de voir défiler vraiment de la grande route de campagne sur laquelle il se passe rien et de voir défiler les kilomètres en l'écoutant en boucle, et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Une autre remarque vraiment très rapide, hein, et après je te repasse le micro, mais ça fait beaucoup un lien avec la question de la virilité dont on parlait avant, la façon dont le mal, le bien et le bien le masculin, et dont ce que vous faites, ça rejoint quand même tout un courant de la pensée critique contemporaine qui est d'essayer de relier, dirons-nous, le mode de production ou le mode de rapport à l'environnement, productivisme, extractivisme, énergie carbonée, et la figure le virilisme projeté, quoi. L'idée qu'en gros, on a une bonne motion de synthèse dans la personne qui conduit son gros 4x4 très vite en projetant sa masculinité et la quantité de pétrole qu'il a pu extraire comme ça, quoi. Et que les deux vont bien ensemble, voilà. Et donc, vous avez ce que je disais. Le but, c'est de faire une chanson qu'on a envie d'habiter, mais l'idée, c'est aussi qu'une chanson doit y avoir, enfin, comme dans un roman, doit y avoir des personnages qu'on a envie de rencontrer. Et là, le personnage, il est bien, bien synthétique. Enfin, on le voit bien, quoi.
Ouais, ça marche. Pixelisé, enfin, comment dire, ou caricaturé, quoi, exactement.
C'est une chanson qui est une chanson à danser, en fait, comme vous l'avez dit, une musique à danser. Il y a ce rythme un peu bancal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc, tu vas pouvoir nous parler, Théo. Et on a réfléchi à ce... La danse et la question de la folie, puisque c'est le fou dans la voiture. Et on a découvert, du coup, comme quoi on apprend toujours en préparant, la pensée de l'anthropologue Ernesto De Martino, italien, qui analyse la tarentelle comme un rituel de guérison du tarentisme, et finalement, qui dit que donc, la piqûre de la tarentule, de cette fameuse araignée, puis en fait, du coup, on se met à danser, et on canalise la folie, et puis la danse, en fait, permet de... n'élimine pas la folie, mais elle la rend habitable. Et cette idée, c'est que le fou dans la voiture, il est fou, mais c'est peut-être pas que de sa faute. On est peut-être fou aussi avec lui, on est un peu dans la voiture. Et finalement, je voulais vous entendre sur cette technique d'habitation de la crise, en fait, que permet aussi le collectif et le fait de faire danser le public sur cette chanson. En fait, on rejoint la folie du fou qui est au volant, on la partage... Et en même temps, elle est libératrice. Quoi. Ça, c'est en entrant dans la crise qu'on peut la combattre. C'est un peu ça l'idée de De Martino. Quoi. Alors, c'est pas le rythme de la tarentelle. Hein, voilà. Je sais que c'est un autre rythme, mais bon, on est parti là-dedans.
C'est du global et c'est la danse. Quoi. Bah, la danse, c'est des choses structurantes pour les sociétés. C'est des espaces de mise au sol du pied, d'ancrage du territoire et des gens ensemble. Quoi. Donc la danse, c'est se retrouver sur... c'est ça, c'est halluciner ensemble et c'est se donner le droit de tenir. Donc ça, en effet, ça pourrait être de la tarentelle parce que c'est plus ou moins la même chose, mais ça se retrouve dans toutes les sociétés. Moi, je pensais plutôt au dancehall, je pensais plutôt à ce qui se passe dans la baile funk au Brésil, qui sont aussi, aussi situées sociologiquement aussi, toutes ces chansons, ces styles pardon, de musique, ces morceaux très populaires, quoi. C'est des endroits où, en fait, c'est des endroits de nécessité d'être ensemble et d'agir ensemble parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'on est obligé d'être ensemble, de toute façon. On fait société, il n'y a pas de murs et des barrières et des haies et des lotissements pour être ensemble, quoi. Donc, c'est des styles vivaces et c'est souvent des styles dansants. Et oui, bien sûr, nous, dans cette voiture, dans le fou dans la voiture, on est tous dans la voiture. C'est pour ça qu'on sait qu'il tourne à droite. C'est parce qu'on le voit, c'est parce qu'on est derrière, c'est parce qu'on est là. Et c'est ce qu'on a essayé aussi de montrer dans notre clip, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur dans le clip, on tient nous-mêmes le volant, c'est-à-dire que alors on va quand même remettre une responsabilité à l'endroit des fous qui nous dirigent, mais bien évidemment qu'il faut, je sais plus qui parlait dans la conversation juste avant de pour préparer la rencontre, mais c'était qu'en effet il faut un environnement qui soit déjà apte à mettre au pouvoir ces personnes-là et qu'il y a déjà des choses et des fenêtres qui étaient ouvertes pour pouvoir faire pousser, quoi, comme des pots dans lesquels il y a eu suffisamment d'engrais pour que ces choses-là puissent pousser et proliférer sans aucune résistance, quoi, ou alors avec peu de résistance. Donc oui, bien sûr. Voilà, on est dans la voiture. Bon.
La dernière chanson, donc Jusqu'à mon dernier souffle. Et là, tout le monde pleure parce que comme tout le monde est de Saint-Étienne.
Saint-Étienne.
Voilà. Jusqu'à mon dernier souffle, en fait, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'utilisation de la voix parlée dans un passage devenu iconique. Donc, allons-y.
Jusqu'à mon dernier souffle, je voudrais faire le bien et puis soigner les gens de cette vie qui les ronge et qui les retient là sur le sol, là me poser sur le mémoire de forme. Jusqu'à mon dernier souffle, j'imaginerai le pire. Je suis pas mauvais pour ça, j'ai dû prendre de mon père. Je vis doucement, je vais vers le bonheur et toujours le chercher. Quelle erreur. Je suis toujours à Clichy, ça fait plus de 7 ans. Je ne compte même plus le nombre de filles, le nombre de nuits passées sous ces toits, à rouler des étoiles entre mes bras. Je suis pas un gars d'ici, je suis loin de chez moi. Les enfants de terre noire ont très bonne mémoire. Je me souviens là mais tard, c'est les collines dorées, par le soleil du soir. C'est l'heure de rentrer, papa nous sifflait, le jour s'embrume. Manger en silence devant la télé. Gamotière, Perrotière, Saint-Jean, Saint-Charles, la Métard, le château, la maison, le cimetière. Saint-Jean, la Métard, Terre Noire, Terre Noire, Paradiso, Paradiso. Jusqu'à mon dernier souffle, j'irai vers ton corps souple et je m'inventerai une vie heureuse, une vie où on serait deux, une maison merveilleuse au bord d'une rivière qu'on aurait inventée.
Voix parlée, Gamotière, Perrotière, Saint-Jean, Saint-Charles, la Métard, le château, la maison, le cimetière, Saint-Jean, la Métard, Terre Noire, Paradiso, Paradiso. C'est sur ces mots-là. Et donc, cette intervention de la voix parlée, elle amène autre chose. Tout d'un coup, voilà, on est dans une énumération, dans une remémoration qui, comme on le disait tout à l'heure, parle même si on ne connaît pas la Perrotière, même si on n'est pas allé en classe nature ou en centre aéré de la Perrotière. C'est pas grave, on ressent quand même quelque chose. Et donc là, nos références théoriques, pour le dire comme ça, c'est toute la théorie des attachements, qui est travaillée par Bruno Latour à nouveau, ou encore Antoine Aignon. Et cette idée que l'attachement, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas un enracinement stérile, c'est pas un simple sentiment, mais c'est une relation active à laquelle on revient, qui est construite, négociée, renégociée, repensée. Et c'est à chaque fois aussi une mémoire qui se refait. Sur ce lien au territoire, alors à Saint-Étienne, mais peut-être pas uniquement à Saint-Étienne, sur Terre Noire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et sur l'utilisation, on parlait tout à l'heure de spoken word, à ce moment-là, oui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire?
Cette partie en particulier, la partie parlée, elle n'est pas écrite, elle a été improvisée en studio. Sur cette chanson, je pense que j'ai dû faire 2 ou 3 prises, pas beaucoup. Et sur la deuxième prise, j'ai fait ça, improvisé, c'est ce qu'on a gardé. Donc ça, c'est le jet d'improvisation qu'on n'a jamais retouché, qui était inspiré d'une chanson de PNL qui s'appelle « La misère est si belle » où ils énumèrent des bouts de... C'est pas le quartier,
détails,
mais...
En fait, des personnes et des numéros de cartes de bâtiments...
Le bâtiment A, la grand-mère, l'appart...
Ils extrapolent la vie, je sais plus, et ça grandit comme ça.
Ouais. Et bref, c'est un peu comme des données de points IGN, quoi, comme des petits drapeaux. Maintenant, cette chanson, c'est presque plus de la musique pour moi. C'est un peu ce côté surprenant de ce qu'est devenu... ce que je voulais dire au début, ce que j'arrive... toujours pas vraiment à nommer, c'est que les chansons sont pas vraiment que des battements d'air musicaux, quoi. Musicaux, pardon. C'est pas vraiment ça. Tout d'un coup, on se met à dire des endroits. Pourquoi ? Comment dire ? Pourquoi faire ça ? Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment pourquoi cette chanson elle a eu cette vie-là. Pourquoi Je sais pas.
Pourquoi on
marque notre territoire, mais pourquoi c'est tout à coup, quand on se met à le nommer, on parle pas vraiment du réel. Enfin, en tout cas, on essaie de nommer le réel, mais tout d'un coup, cette marque qu'est la chanson, elle vient enrober les souvenirs que... C'est un peu ça quand tu parles de c'est un remplacement de mémoire, ou un raffinement de la mémoire, ou une modification de la mémoire. C'est qui est pour moi le geste créatif, expressif, c'est-à-dire qu'en essayant de nommer quelque chose, même le plus concrètement possible, ce qu'a essayé de faire cette chanson, dans des détails très précis, concrets, factuels, tout d'un coup fabrique... Par exemple, maintenant, quand la lumière dorée sur les collines du soir, je ne sais même plus ce que je dis, c'est à la fois la lumière dorée, mais c'est à la fois la chanson. Donc tout d'un coup, ça produit des allers-retours, comme un miroir supplémentaire pour que le souvenir vienne se réfléchir, quoi. Donc il y a une nostalgie dans cette chanson qui est une addition de mon souvenir d'enfant et du moment où je l'ai écrit. Ça fait un troisième territoire qui est cette chanson. Et tout d'un coup, on se balade en concert et les gens au Havre ou en Bretagne l'aiment parce que ça fait apparaître en eux notre territoire partagé qui est le nôtre, dans lequel ils n'ont jamais foutu les pieds, et puis leur enfance à eux, voilà, qui est ce... Tu faisais ce geste tout à l'heure, cette espèce de... On fait atterrir notre chez-soi chez les autres, mais en fait, c'est le chez-soi de plus personne. C'est un troisième truc, enfin un autre truc, qui pour moi est la chose la plus intéressante qu'on puisse faire, c'est faire apparaître cet autre truc chez les gens.
Merci beaucoup. Alors, je vous partage, hein, quand on travaillait à la préparation et puis en écoutant pareil un certain nombre de fois cette chanson pour préparer cette rencontre, ça m'a fait penser à 3 choses. Alors pareil, je vous les partage, vous en faites ce que vous voulez. La première, c'est la méthode des lieux en mémorisation et en rhétorique ancienne. Il y a un certain nombre d'orateurs de la démocratie antique, de la Grèce ancienne, qui disent en fait, si vous avez à apprendre un discours très long, il faut vous le relire et vous le répéter en passant par un trajet que vous connaissez bien. Un trajet dont vous avez l'habitude. Et donc, par exemple, le premier argument, c'est quand on passe devant la maison d'un tel. Le deuxième, c'est quand on passe devant la fontaine. Le troisième, l'anecdote, c'est quand on passe... Et en fait, comme ça aide à ancrer. On associe des lieux et une histoire, quoi. Et ça aide. À l'époque, il fallait apprendre des discours de 6 heures par cœur sans prompteur, donc c'était utile. Donc, C'était la première dimension. Deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser, et ça c'est en lien avec le titre, c'est la pneumologie médiévale. Alors à l'époque où c'était pas l'étude des poumons, c'était l'étude du pneuma. Le pneuma, c'est le souffle, en fait, l'esprit, l'âme. Et la pneumologie, donc à l'époque où la philosophie et la théologie sont ensemble, c'est l'étude de tout ce qui fait que notre âme, enfin, la singularité de notre âme est insufflée dans notre corps, quoi. En gros, qu'est-ce qui fait qu'on est nous et qu'on est singulier? Et du coup, moi, je me disais, bah, le titre, on peut le comprendre comme ça. C'est-à-dire, c'est pas jusqu'à ma mort, c'est je vais vous énumérer du début à la fin tout ce qui a insufflé ma singularité, en fait, en tant que sujet. En le disant, enfin moi je le dis à la première personne, mais vous dans le cadre du processus créatif. Et donc je vais faire la liste de toutes les choses qui vous a fait vous dans votre singularité, en fait. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et le troisième point, c'était, et là on reboucle par rapport aux premières choses qu'on a dit, c'est une espèce de réaction contre ce que l'anthropologue Marc Augier appelle les non-lieux. Les non-lieux, c'est les lieux qui sont les lieux de personnes, qui n'ont pas d'histoire, qui se ressemblent tous, qui sont les mêmes ici, à Dubaï, à Toronto. Et Marc Augier, donc, qui est un anthropologue, fait une critique justement des aéroports, des galeries de grands magasins, des halls de gare, où il dit en fait, on est partout et nulle part en même temps, parce que c'est des lieux où personne vit. Des lieux qui sont faits pour circuler, glisser, polir, hygiéniser, tout ce qu'on veut. Mais c'est l'endroit de personne, en fait. Il n'y a pas de nom propre. Il y a juste le Starbucks qui est à gauche ou à droite de la Western Union. Mais c'est tout, en fait. Et dans votre critique au début de l'entretien sur l'impersonnalité du phénomène de tournée, on est dans une gare, on est dans une autre gare, on arrive dans un zénith, il ressemble à un autre zénith. Bon, voilà. Il me semblait qu'il y avait ça aussi. Donc voilà, c'était les trois éléments moi, auxquels j'avais pensé quand on travaillait ça.
J'adore.
C'est des remarques qui font plaisir, franchement.
Non, c'est intéressant sous du pneuma, je trouve.
Ah ouais.
Parce que c'est ça, en fait, ce qui est étonnant, c'est-à-dire que tout d'un coup, par l'expression d'une singularité, mais je dirais presque produire un détachement de soi. C'est ça le geste final, quoi. C'est-à-dire essayer de, par le souffle, trouver la singularité de son propre souffle, mais en revanche, pas dans un... Et là, si je reviens à cet endroit de la verticalité, pas tout d'un coup pour se verticaliser, se connaître absolument, etc., mais comme décontracter une part de soi, quoi. Dérigidifier par le souffle, ce qui est la décontraction presque d'ailleurs pulmonaire, quoi. Mais tout d'un coup, venir, c'est bon, ça c'est dit. Du coup, je peux enlever cette couche. Et là, on revient à l'idée de sobriété. Plutôt que de se rajouter... des couches et des couches et des bâtiments et des niveaux, mais plutôt avancer par soustraction. Et que l'âme puisse permettre, enfin que le geste du souffle et que l'âme puisse nous permettre de nous soustraire, non pas pour nous réduire, mais pour nous calligraphier, quoi, je dirais, peut-être.
Merci beaucoup. Alors, on a quelques minutes, si vous le souhaitez, pour des questions, des remarques.
Je ferai passer un micro ici.
Bah, tu es censé répondre aussi. Hein.
Voilà. Peut-être qu'on s'en partage un pour deux. Comme ça, les
non, gens moi, je vais le faire passer parce que c'est vous qui...
Vous étiez là. Allez, une petite question. Vous n'êtes pas obligé.
Déjà, merci beaucoup. J'avais une question pour rebondir sur votre chanson « Vivre sobrement ». Parce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit lors de votre dernier concert au fil.
Merde, qu'est-ce qu'on a dit comme connerie?
Et vous avez dit que, contrairement à la chanson originale, que Terre Noire est devenue
révolutionnaire. Ouais, on le dit maintenant, ouais.
Devient révolutionnaire.
Ouais, parce que j'étais pas à l'aise. C'est pas exactement vrai. Je pense que, comment dire. Pardon, t'as pas fini ta question.
Non, si, en fait, c'était pas vraiment une question, mais je voulais savoir un peu quel était le moment charnière qui avait fait que vous étiez passé de Terre Noire n'est pas révolutionnaire, c'est juste chanson populaire, à Terre Noire devient révolutionnaire. Enfin, il y a quand même quelque chose qui a changé dans votre engagement, dans les textes de vos chansons et dans toute votre action, en fait. Donc, c'est pas révolutionnaire, mais il y a quand même.
Je saurais pas trop répondre. Je trouvais ça triste de se dire pas révolutionnaire, en fait. En ce moment.
Je suis bien d'accord. Du coup, je vous remercie.
Et je pense qu'il va falloir l'être un peu.
D'autres questions, remarques? Alors, il y a eu une seule courageuse.
Bonsoir. J'ai pu entendre, du coup, et même prendre connaissance de vos sources d'inspiration. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des artistes, du coup, qui sont, on va dire, récents, qui vous ont aussi inspiré au cours de vos processus, parce que la musique, elle évolue, elle change. Et il y a beaucoup d'artistes qui prennent énormément de risques comme vous.
Merci.
Donc j'aimerais savoir si vous avez pu, au cours de vos carrières, avoir des inspirations qui vont au-delà de la...
Des inspirations d'enfance, tu veux dire? Enfin, des...
Non.
Enfin, qui vont au-delà des inspirations initiales,
oui.
Des choses plus récentes.
Oui.
Les choses récentes.
Oui.
qui sont arrivés plus
oui,
tard
c'est ça.
Dans la vie. Bah, par exemple, pour le foot dans la voiture, il y avait Rosalia, un morceau qui s'appelait Con Altura. Conatura. Et parce que je dessinais pas du tout le rythme que j'ai fait pour notre album Terre Noire, pour notre groupe en fait, je pensais complètement filer cette prod à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas du tout Terre Noire, on sortait de l'album Les Forces Contraires, c'est plutôt piano, plutôt chanson on va dire. Donc du coup je me disais mais comment ils font pour faire un si bon morceau, ça m'intéressait, je faisais de l'opération, comme ça je regardais dans mon logiciel, je comprenais plus ou moins comment ça marchait. Voilà, par exemple, Rosalia, un petit peu. Pas tant que ça, finalement, mais par exemple, voilà, pragmatiquement, sur ce morceau, il y a vraiment eu Rosalia. Sinon, il y a énormément les artistes qui mélangent beaucoup, beaucoup de styles et réussissent à les compacter dans quelque chose où on sent dans l'inconscient et on est sûr qu'il y a des choses, plein de styles qui sont là, mais on ne les entend pas. Je pense beaucoup à Frank Ocean, par exemple, où on sent toute la musique, on sent les Beatles, on sent la musique New Age par des touches, par juste une philosophie en fait d'écoute. Voilà, je pense beaucoup à Devonte Hines, Blood Orange.
Oui, il y a The Weeknd aussi qui m'a beaucoup fait penser parfois aux manières.
The Weeknd, j'écoute pas souvent, mais à chaque fois qu'il passe à la radio, j'aime trop. J'aime trop The Weeknd sans l'écouter, et je pense qu'en effet, c'est comme ça, les personnes qui passent un petit peu dans les zones périphériques de notre vision, mais qui ont des rapports au son, à l'esthétique qu'on va chercher, j'en suis sûr. C'est par exemple Anderson .Paak et Bruno Mars, Silk Sonics, des choses comme ça, même que j'écoute pas vraiment, mais quand ça passe à la radio, que ça passe en DJ set, je me dis waouh, quel bonheur
absolu, oui.
C'est trop bien, ça passe. Voilà. La musique ambiante est une chose qui n'est pas arrivée dans notre enfance. Donc la musique ambiante, c'est des musiques très très atmosphériques, stratosphériques, qui peuvent parfois avoir l'impression d'être dans un ciel bleu ou parfois dans un brouillard compact, quasiment puré de poids. Donc on peut vraiment être à des endroits de l'émotion différente, mais on va dire que c'est ces grands espaces quasiment immobiles qui se déplacent lentement sur parfois des plages de temps, 10, 12, 15, 20 minutes. Ça, on n'écoutait pas ça quand on était petit, on ne nous avait jamais fait découvrir ça. Et ça, c'est venu et c'est devenu aussi des morceaux, objets, outils. Ça permet à Raphaël de pouvoir écrire avec de la musique sans qu'il y ait du texte en même temps. Donc moi, ça me permet à me déplacer. Ce matin, je courais à Salvaris. J'adore faire des efforts physiques intenses avec de la musique qui n'a rien à voir. Je ne mets jamais de la musique rythmée. C'est des endroits où j'ai l'impression de chercher le souffle. Et aussi pour la musique, bien évidemment, pas pour l'effort physique, mais voilà.
Mais du coup, en parlant de création, vous commencez d'abord par l'écriture ou par des sonorités ?
Ça dépend.
D'accord.
Franchement, il n'y a pas de recette. On fait comme on peut.
D'accord. Bah, merci.
Merci à toi.
Juste derrière, oui.
Bonsoir. Dans la continuité, quelles sont vos bases musicales au départ ? Qu'est-ce que... Ça va du classique au rock tout... Je dirais, après que vous preniez, vous créez... À partir de quelque chose, où ça vient comme ça, n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel moment de la semaine, ou un lieu, ou la balade.
La grammaire de composition, la première grammaire qui nous permet de composer. En ce qui me concerne, c'est l'instrument guitare, et guitare électrique, moi j'ai appris avec mon oncle, et ça a été l'ordinateur. En fait, ce qui est super avec l'ordinateur, c'est qu'il y a plein d'instruments, des plugins ou des VC instruments, enfin des instruments logiciels, c'est-à-dire... n'importe quoi, un violon, des pianos, 1000 pianos, les synthétiseurs vintage, une batterie, 1000 batteries, plein de trucs, des sons bizarres, des bruitages et tout. Et en fait, avec juste... on peut déjà commencer à composer. C'est ça où la machine est sublime, c'est-à-dire que parfois, elle permet immédiatement de rendre une idée intelligible, possible, quoi. Et donc, ça a été le mélange entre la guitare, la voix, qui est quand même l'instrument principal, et ces machines. Voilà. Et ensuite, le désir compositionnel, enfin l'envie de composer, je sais pas trop pourquoi on a envie de faire sortir une idée de soi. Pour moi, ça a été à la fois envie d'imiter, pendant un temps, on imite ce qu'on aime un peu, et à la fois, pour moi, c'était plutôt comme faire des musiques de films. Comment dire ? Enfin, en tout cas, imiter des images que j'avais dans la tête, quoi. En tout cas, retrouver des sensations d'images que j'avais dans la tête. Ce qui permet, pour moi, de tout d'un coup être dans la translation, de ne plus imiter à l'identique la musique qu'on aime, mais passer par un médium, l'image, pour tout d'un coup, pour essayer de répondre à votre question, on part jamais de rien. C'est toujours une association à quelque chose de créé, une émotion qui nous fait créer un truc. Et là, je trouve que l'image... Je parle d'image parce que, et après je ralentis, mais moi j'ai aimé j'ai eu envie de faire de la musique presque au moment où je faisais des petits films, tellement j'ai aimé mettre de la musique sous des images. Et tout d'un coup, je réalisais que mettre telle ou telle image donnait un autre sens à ce qui était filmé. Et ça, c'était, je m'en suis encore jamais remis, quoi. Et donc, c'était ça, c'est rejoindre les images dans la tête par la composition.
Oui, mais ce que je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez une base de solfège ou vous avez étudié ou...
Ah oui, je sentais que c'était ça. Ou c'est... Est-ce qu'on a allé au conservatoire?
Non, je ne parle pas de conservatoire, non, mais je veux dire, vous avez démarré avec un instrument particulier. Vous parliez beaucoup de piano,
la guitare,
de
guitare. Ouais.
Mais est-ce que vous avez appris le solfège ou c'est venu comme ça, c'est instinctif?
Moi, j'ai appris le moment où j'ai démarré le solfège, je n'avais jamais fait. J'avais déjà commencé bien la guitare, je faisais beaucoup de concerts. J'ai fait un an en musicologie, j'ai appris un peu à lire des notes, puis j'ai oublié. Je ne sais plus les lire, plus vraiment. Mais c'est pas grave, je crois. Instinctif, on fabrique ses méthodes quand même. On fabrique ses méthodes. Mais en tout cas...
En ce qui concerne la technique, à un moment donné, c'est la pratique qui fait que la technique arrive?
Oui.
Ou c'est l'ordinateur qui vous guide?
Non. Non, l'ordinateur, il ne fait pas à notre place. Mais non, c'est la pratique, on fabrique ses outils, en fait, justement. Je pense que c'est ça. Créer, c'est fabriquer ses outils.
Je me permets de réagir. Si on a quelques minutes encore, je vais essayer de ne pas être trop long, mais sur ces considérations-là, de est-ce qu'on se laisse automatiser par la machine? Est-ce qu'on se laisse guider? Et déjà, merci pour l'échange et la teneur à la fois émotionnelle, intellectuelle de tout ça. Je vais revenir un petit peu en amont sur les questions de Simondon, parce que ça a été évoqué. Effectivement, on va travailler bientôt sur les mois de février et de mars un projet autour de la figure de Gilbert Simondon. Je ne sais pas si tout le monde pourra qui est ce philosophe, penseur français qu'on dit souvent penseur des techniques, né à Saint-Étienne, donc en 1924. Mais je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire de la philosophie, je voulais juste révéler aussi ce qui est de l'ordre plutôt du privé, mais qui est un surnom que je donne à Théo depuis quelques années, et à partir de ça peut-être faire mon commentaire, qui est le surnom de chaman computationnel. C'est... ouais, c'est un surnom hyper sexy. Et en fait, pourquoi chaman computationnel? Je vais m'arrêter juste sur ces deux mots qui sont un petit peu en plus... c'est d'une manière triviale aussi que je détourne un petit peu ce concept qui n'est pas très pris au sens strict du chaman, au sens anthropologique ou ethnographique, mais qui est la question de la pharmacopée, c'est-à-dire de prendre soin à un moment donné du pharmacon, parce que c'est un mot qui n'a pas été prononcé depuis tout à l'heure, qui est un concept en philosophie qu'on trouve chez Platon déjà au départ de la philosophie occidentale, puis ensuite qui a été travaillé par nombre de penseurs et de penseuses jusqu'au très contemporain Bernard Stiegler ou Anna Lombert par exemple, et qui est ce concept qui signifie à la fois le poison et le remède. Et finalement, ça a traversé votre échange depuis tout à l'heure, c'est la question de est-ce qu'on se laisse aliéner par la technique, est-ce qu'on se laisse téléguider, comme vous avez dit, par la machine? Ou alors, est-ce qu'on essaye de trouver et d'exprimer peut-être les paramètres du remède, de ce qui peut nous soigner et de ce qui peut nous permettre de nous émanciper et de créer et d'aller plus loin? Donc c'est pour ça que, assez souvent, quand on se retrouve avec Théo, que ce soit en studio ou ailleurs, je me permets de poser cette catégorie sur ce monsieur. Et donc, chaman computationnel, parce que la computation, c'est l'endroit du calcul, c'est-à-dire l'endroit de la machine, parce qu'un ordinateur, on appelle ça un computer. Voilà. Et donc, finalement, le rôle, ma considération là, elle est sur le rôle du musicien et plus généralement de l'artiste et plus généralement de la chercheuse et plus généralement des citoyens et des citoyennes, c'est-à-dire la capacité d'exprimer l'incalculable dans quelque chose qui est très automatique, en fait. Tout à l'heure, quand tu as parlé du logiciel et des cordes, tu as un rapport symbolique avec le logiciel qui est intéressant. Tu as l'impression que ce sont les mains des musiciennes et des musiciens à qui tu t'adresses. Est-ce que ça va leur plaire de jouer ça? Donc il y a une espèce de détournement comme ça de hacker. Il y a une espèce de bricolage avec les personnages symboliques que font émerger les logiciels. Et donc je pense que le rôle de l'artiste est... en refaisant le chemin plus généralement des citoyens, c'est d'exprimer la qualité de remède de la technique potentiellement. Et on en dira peut-être un petit peu plus lors de la journée d'études sur Simondon, mais merci en tout cas pour cet échange.
C'est bon.
Moi, je vais vous demander, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux entre produire de la musique et la partager, ou alors vous nourrir de musique et vous enrichir ce point de vue culturel?
C'est une super bonne question. C'est parfois plus c'est souvent plus douloureux de faire de la musique que douloureux d'écouter de la musique. Parfois, c'est difficile de faire de la musique parce que quand on sent que ça vient pas, et c'est une véritable souffrance, quoi. Enfin, pas de problème. Par contre, réussir à faire un morceau qui nous plaît, ça, c'est des, voilà, risk reward. C'est des plus grosses dynamiques, quoi. Si on réussit à faire quelque chose, waouh, on a envie d'écouter le morceau qui nous a touché. Là, l'idée qu'on a eue, on a envie un peu de l'écouter en boucle, quoi. Il y a quelque chose de l'obsession. Alors parfois, c'est un peu malsain parce que on se l'écoute trop et on se la gâte, voilà. Parce que un morceau, ça a toujours un temps de gestation et un temps de création. Faut pas attendre trop longtemps. Au bout d'un moment, comme une pomme qui est un peu croquée, ça oxyde. Donc, voilà, c'était ma métaphore de la pomme. Mais je suis assez d'accord avec ça, c'est qu'assez vite, vraiment, la chair, elle est belle. Et si on l'écoute trop, ça fait oxyder et on perd ce pour quoi on avait fait. Il faut aller un petit peu vite et pas trop se la faire. Je reviens sur ton idée. Franchement, je ne les mets pas en opposition. C'est pas grave. Mais faire de la musique quand c'est des beaux moments, ça, c'est quand même vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Toi, c'est quoi, toi ?
Moi, c'est très compliqué parce que je peux pas produire de musique sans en écouter, puisque ça, l'aspiration, ça vient d'en écouter et de se nourrir. Mais je préfère quand même en produire parce que en produire, c'est m'exprimer avant tout, alors que écouter, c'est entendre et l'expression des autres. Et pour moi, la musique, bah, c'est un langage. Et je préfère voilà, produire de la musique parce que en produisant de musique, on finit par aussi rencontrer d'autres personnes et c'est un moment de quand on publie ou quand on joue sur scène, c'est un moment de partage et d'expression. Pour moi, c'est la meilleure expression possible. On peut pas s'exprimer d'une meilleure façon, alors si on peut, mais pour moi en tout cas, la musique, c'est le meilleur moyen. Et donc je peux pas en produire si j'en écoute pas. Les deux vont ensemble, mais je préfère quand même en produire.
Bah, t'as choisi un beau chemin pour ta vie en tout cas. Si t'es au meilleur endroit où tu puisses être en faisant de la musique et que t'en produis, machallah, franchement, trop bien, trop bien. Ça fait trop plaisir. Il y a une toute dernière question. Vous avez peut-être des questions là.
Merci d'avoir ramené le micro jusque là. Merci pour votre intervention. Je me posais la question parce que vous parlez de la musique et ouais, bah comme 99% de la population, je crois que j'en écoute et que je l'aime. Vous parlez de l'inspiration liée au fait de découvrir d'autres musiciens, des compositions, la danse. Mais moi, je me posais la question de la transversalité. J'imagine que, j'en sais rien, hein, mais comment vous pourriez ne vivre que avec de la musique? Et du coup, quelles sont les autres sources ou peut-être les pas de côté que vous faites par rapport à la musique? Est-ce que je suis claire?
Par rapport à... Sur quel aspect?
Sur l'aspect
financier?
Non, pas du tout. Non, pas ça.
Non, je pense que c'est les moyens de subsistance, on peut en parler. C'est bien.
Ça peut être intéressant.
Non, mais...
Je pense à la création et l'inspiration, mais pourquoi pas?
Pour la création et l'inspiration, qu'est-ce que d'autre que la musique peut nous inspirer dans notre création? Moi, je dirais la relation avec les humains. En un, bien avant la musique, presque. Enfin, la musique est le médium, mais en tout cas, ce qui compte, c'est c'est la parole humaine. La relation humaine, le corps de l'autre, ça c'est 80... Comment vous avez dit 99%? Allez, on va dire 90%. Et après, c'est les médiums, c'est... La musique, c'est une forme de machine aussi, comment dire. C'est une machinerie gracieuse, mais... Je t'entendais dire produire de la musique. Je me demande depuis quand on dit produire de la musique. Avant, on disait composer de la musique. Mais je pense qu'on dit produire un discours aussi maintenant. J'ai pas la réponse, mais je trouve ça intéressant. C'est pas du tout... négatif, au contraire, je trouve ça beau, produire. On dit pas encore produire du pain, je sais pas, faire du pain, faire de la musique, bref, je m'égare. Mais ouais, je dirais les liens, le lien avec les gens, ces moments, c'est ça le plus fort quand même.
Bon, je ne produis pas de musique, mais je suis d'accord avec vous. Et du coup, vous vouliez parler d'aspect plus matériel. Je suis bien curieuse de ça.
Je voulais pas spécialement, mais je pensais que c'était ça la question.
Mais je veux bien la réponse.
C'est quelle est la question?
Si on fait d'autres choses qui nous permettent de gagner notre vie que la musique?
On peut la poser comme ça, ça serait bien.
Bah, quand on fait des ateliers d'écriture, par exemple, on fait pas vraiment de la musique et on gagne le taux horaire de l'action culturelle. Donc une heure par heure, je crois que c'est 75 euros de l'heure. Voilà, on fait 2 heures, donc on gagne 150 balles pour la journée. Sinon, c'est toujours la musique. Merci. Voilà, c'était le moyen de subsistance le plus pragmatique. Et peut-être qu'on fera des livres, parce qu'on a aussi une maison d'édition qui nous permet de... Donc maison d'édition, c'est l'édition musicale, mais c'est peut aussi être l'édition libresque, libraire, littérature, littéraire. Et du coup, on pourrait aussi faire des livres. Peut-être qu'on va faire des livres, des petits livres qui mélangent de la musique, qui mélangent des poèmes. Voilà. Voilà. Voilà.
Une dernière question ?
Merci beaucoup. C'est la troisième fois que j'ai la chance, le privilège de vous rencontrer. Je n'ai jamais été aussi près. Ma question n'est pas du tout musicale, elle s'adresse plutôt aux deux frères. J'aimerais savoir comment vous vous êtes trouvés pour fabriquer des choses ensemble qui s'approchent du public, qui touchent le public, et dans toutes les acceptions du terme touché. Et... la démonstration que vous faites aujourd'hui et l'évocation de vos démarches auprès des enfants, auprès des écoles, sur les territoires, votre approche, votre préparation des concerts sur chaque zone de production, votre volonté de comprendre le territoire, de le connaître, ça a quelque chose qui flirte avec la vérité. Et voilà, je ne sais pas qui vous a inspiré cette démarche-là. Comment vous arrivez encore à vous supporter tous les deux ? Parce que des fois, ça doit quand même un petit peu friter. Mais le plaisir que vous renvoyez, le sourire que vous avez, la simplicité de votre démarche, moi je dis chapeau.
Merci. Merci, c'est super gentil.
Théo, il m'a parlé d'une sorcière qui lui aurait dit que ce serait dans notre famille depuis très longtemps. Moi j'y crois. Et j'y crois. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est dans notre famille. C'est notre rôle. C'est bizarre, hein, à dire comme ça. Ça fait bizarre un peu, ça fait con-con et tout, mais... C'est notre oncle, mais notre oncle, c'est notre grand-mère. Puis c'est notre autre grand-mère. Comme elles nous ont parlé, ce qu'ils disaient autour des tables, ce que faisaient leurs paroles, leur amour, leur regard, la contemplation des choses. Mais ça vient d'avant elle, hein. Donc ça, c'est...
C'est les lignées, quoi. Non, mais on ne sait pas. Nous, on n'a pas la chance de pas trop savoir qui était.
C'est les rhizomes.
Les filons. Les veines. C'est les veines de charbon.
Et ça donne un sens à notre vie.
Anthracite.
Ça donne un sens à notre vie. Et on a la chance, et là, on revient aux subsistances, c'est la dimension pécuniaire. Nos grands-mères, elles étaient femmes au foyer d'immigrés, vécu dans des HLM, donc elles n'avaient pas l'intermittence du spectacle, elles n'étaient pas sur des scènes avec des micros devant la bouche pour dire tous ces trucs-là. Et nous, on a la chance, hein, le privilège immense, la chance immense de pouvoir le faire. Donc on est des gros chanceurs, comme on disait à Saint-Thé quand on était petit. Ça, c'est sûr. Et donc je pense qu'on a conscience de la chance qu'on a, du bonheur qu'on a, et le partager et le construire et être attentif à ça, c'est important. Et voilà, et ensuite dans notre lien, on le travaille, on le produit, on y travaille à la qualité de notre lien. Mais j'ai la chance d'avoir un frère extrêmement délicat qui a un beau cœur, ça facilite aussi.
Et moi pareil, donc du coup on fait, et c'est pour ça que je demande à mon frère qu'on reprenne les parties de ping-pong à partir de la semaine prochaine pour travailler ce lien, du cœur à cœur. C'est un peu drôle et symbolique, et je ne le pense pas vraiment comme ça, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire tourner l'échange pour que ça dure longtemps et pour que ça vive. Il faut échanger, il faut faire de la musique et il faut préserver. Et il faut aussi se dire que le monde, à un moment, s'est dit qu'une chanson sur les soignants au Covid, ça serait ces deux gars-là. Et c'était une chanson qui parlait de notre quartier. Et finalement, les gens se sont dit, mais c'est une chanson sur les soignants. Donc, comme si quelqu'un avait dit, voilà ce que tu veux dire. Et du coup, on s'est dit, bon, au lieu de se dire qu'on se fasse déposséder de l'idée première, on s'est dit, peut-être que les gens ils voient quelque chose qu'on ne voit pas. Et à partir de ce moment, de ce morceau, en 2020, là, Covid, décembre 2020, ou janvier, je ne sais plus, et on s'est dit, ah, et ben, peut-être qu'il y a quelque chose dans le soin. peut-être qu'on a quelque chose dans le soin, mon frère et moi. Peut-être que c'est bien de le faire émaner. Peut-être que c'est bien de creuser le filon, comme vous dites. Et je pense que du coup, il y a quelque chose à l'endroit d'une stature personnelle, individuelle d'être humain et d'être par rapport aux gens. Faut être souriant, faut être heureux d'être avec les gens, faut accueillir avec tout le monde, avec son frère bien évidemment, mais avec tout le monde. Et se dire que la musique, si on pense en fractal, c'est plus ou moins la même chose, mais un petit peu plus dézoomé, quoi. Et si un jour on fait autre chose, on devient ébéniste ou boulanger ou producteur de pain, on fera pareil. Enfin voilà, c'est juste ça. Mais nous, franchement, on est des artisans d'une manière ou d'une autre. On nous met là à l'université à faire parler, mais je pense qu'un ébéniste, un horticulteur, qui que ce soit, ou même quelqu'un qui fait pas de l'artisanat, qui travaille son geste tous les jours, une AESH, quelqu'un qui nettoie, il a des choses aussi importantes à dire sur ce qui joue à l'intérieur de la philosophie de son existence et ces choses-là. Donc, franchement, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose dans la stature individuelle qui est importante et il faut la travailler. Et on a de la chance parce qu'en plus, on est bien, on est dans le confort, on fait de la musique, quoi. On a le corps en forme, tout va bien. Donc on en profite et on dit merci. Voilà.
Merci tout le monde.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était un plaisir d'être avec vous.
Vous avez écouté Entendre et s'entendre avec Terre Noire, avec les voix de Raphaël et Théo Rérias, composant le duo Terre Noire, invité à cette rencontre par Anne Damonguillot et Camille Rollins pour l'Institut Art à l'Université Jean Monnet Saint-Étienne. Enregistrement, jingle, montage podcast et voix off, Mélanie Faber. Institut Art, podcast.